Donc on a deux parchiotes, Matot et Massé, et avec ces deux parchiotes, on termine le Sefer Bamidbar. Et quand on termine le Sefer Bamidbar, on termine le récit de la circulation des Bnei Israël, puisque le Sefer Dvarim, ça va être quasiment le testament de Moshe Rabbeinu. Et donc, là, on est à la fin de ce que la Torah nous a enseigné avant que nous entrions en Eretz Israël. Il y aura ce cinquième livre qui a un statut à part qui s'appelle Mishneh Torah. Bon, ça veut dire qu'on est en train de répéter la Torah. Bien sûr que ce n'est pas une pure répétition. Mais enfin, d'une certaine manière, on veut dire par là aussi que on n'est pas en train de dire quelque chose de radicalement nouveau. Ce qui devait être dit dans la Torah a été dit. Et ça se termine ici par ces deux parchiotes. Et on va voir quelques-unes des choses qui sont dites dans ces deux dernières parchiotes, comme si c'était ce qui manquait encore pour avoir une vue complète de la Torah. Alors ça commence. Vaïdaber Moshe, El Rachea Matot, Bivne Israël, les morts. Moshe Rabbeinu parle, et il parle au chef des tribus. Donc c'est les tribus des Bnei Israël, bien sûr. Et les morts, c'est-à-dire ce qu'il leur dit, c'est que ce soit répété, transmis. Zé Adavar Asher Tziva Hashem. Ici, voici, ceci est ce qu'Hashem a ordonné. Pourquoi est-ce qu'on doit préciser ici que c'est ce que Hashem a ordonné? Toute la Torah, c'était ce qu'Hashem a ordonné. Pourquoi est-ce que ici, en particulier, on met un passouk spécial, rien que pour ça, pratiquement, enfin, la fin de passouk, mais pour dire que voilà, c'est ce qu'Hachem a, voilà ce qu'Hachem a ordonné. Alors, qu'est-ce qu'il a ordonné? Ish ki dor neder l'Hachem, o ishava shvua, l'esor issar al nafsho. Lo yachel dvaro, et que chol hayotze mipiv yaaseh. La Torah, elle invente quelque chose de complètement nouveau, la notion de neder. Neder, c'est un homme, un être humain, un homme, une femme, qui fait ce qu'on appelle, en français, on appelle ça un vœu. C'est un vœu la Hachem. C'est-à-dire, il fait un vœu à Hachem. On pourrait entendre ici que c'est un vœu, un engagement par rapport à Hachem. Sous forme de neder ou sous forme de chevoix, d'un serment. Un vœu ou un serment, disons. Par ce vœu ou ce serment, cette personne-là, elle s'impose à elle-même. Elle s'impose une restriction. Bon, elle se donne une interdiction, si on veut. Alors, on nous dit que s'il a formulé quelque chose de ce genre-là, un vœu, un serment, alors la Torah dit Lo yachel dvaro. Il ne doit pas profaner sa parole. Et au contraire, Il doit faire tout ce qui est sorti de sa bouche. Il doit le faire. On a l'impression que ne pas profaner et faire tout ce qu'il a dit, c'est deux façons de dire la même chose, sauf que l'une est ce qu'on appelle un lotassé, une mitzvah interdisant quelque chose, ne fait pas, et l'autre est une mitzvah assez fait, c'est-à-dire ne profane pas, mais fais ce que ta bouche a dit. Alors d'abord, remarquez l'utilisation du verbe profaner. Profaner, ça suppose qu'il y a de la kdoucha et qu'on va la profaner. De quelle kdoucha s'agit-il ici? Comment on peut profaner? Il profane une parole, mais la parole, elle n'a pas de la kdoucha, elle n'a pas de kdoucha, a priori. On a posé pas mal de questions. Une grande partie de ces questions, on va voir ce que Rachid en dit. Sur Zé Adavar, ceci est la chose qu'Hachem a ordonnée. Alors Rachid dit, ici, dans cette paracha, on a utilisé cette expression, Zé Adavar, et dans un autre contexte, dans ce qu'on appelle Shrute Chutz. C'est-à-dire faire la shrita d'un korban. La shrita, elle doit se faire à l'intérieur des limites prescrites pour faire la shrita, disons en gros dans le Beth Amikdash. Et il se trouve que quelqu'un fait cette shrita en dehors du Beth Amikdash. Ça s'appelle shrute chutz. On a fait la shrita à l'extérieur. Alors, dans ces deux situations-là, on a utilisé la même expression. Et donc ici, on dit, pardon, Moshe, non, Zéadavar, זה הדבר, מה להלן נאמרה לאהרון ולבניו ולכל ישראל, de la même manière que dans Shrut Echutz, ça a été dit à Aaron, à ses fils et au Béné Israël, en totalité de l'Israël, chez Neymar, d'abord et l'Aaron, parce que là-bas dans la Shrut Echutz, c'est marqué par l'Aaron d'abord. Avzu nemra le Koulam. Ici aussi, ça a été dit à tout le monde. Pourquoi Rashi ramène ça? Parce que ici, dans les Nedarim, dans Matot, comme dans Shrut Echutz, le texte il est introduit par l'Aaron, où Moshe parle au Rashi à Matot. Alors on pourrait penser que les choses ont été dites ou bien seulement à Aaron, dans les Shrut Echutz, ou bien seulement aux chefs de tribu. Alors on dit que de la même manière, et là-bas c'est explicite, que bien que ce soit présenté comme Daber el Aaron, mais aussi El Banav et Kol Israël, ici aussi, bien que ce ne soit pas marqué, c'est Roshé Hamatot, mais aussi le Kol Israël, tout Israël. Ensuite, c'est marqué que Hachem, pardon, Moshe dit à Obné Israël, Zé Adavar, Hachem Siva Hachem. Zé, ça veut dire, c'est ceci. C'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt. Alors ici, le commentaire va nous enseigner. Rashi dit, Moshe nitnave beko amar Hachem, comme par exemple, il a annoncé que Hachem va arriver à Chatzot en Mitzrayim. Ta Chatzot à Laila, Vanviim nitnavu beko. Mais les prophètes aussi disent Ko, ainsi a parlé Hachem. Mosif Alehem Moshe, Shenitnave Belashon Zehadavar. La personne d'autre que Moshe Rabbeinu ne dira, ceci est ce qu'Hachem m'a parlé. Tout le monde dira, tous les prophètes, et Moshe Rabbeinu aussi de temps en temps, ainsi a parlé Hachem. Mais de dire ceci précisément, ça veut dire je vous dis quelque chose qui est exactement ce qu'Hachem a dit. Donc cette précision-là, redire les choses avec cette précision-là, c'est la caractéristique de la nevoie de Moshe. Personne, aucun autre Navi n'utilisera jamais cette formule Zeh Hadavar. Donc c'est ici, en quelque sorte, tout à la fin de la Torah, tout à coup, on nous dit quelque chose que on aurait pu nous dire au tout début de la nevoie de Moshe. La Torah, finalement, c'est la nevoie de Moshe. Donc, on aurait pu nous caractériser tout de suite en nous disant, voilà, Moshe, il parle et au nom d'Hachem, et il parle comme seul lui peut en parler. Alors ensuite, il y a le mot neder. Rashi nous explique qu'est-ce que c'est qu'un neder. À Omer, c'est quelqu'un qui s'exprime d'une manière particulière. Il dit Hare alai unam shelo ochel o shelo ese davar luni. Yachol afilu nishba sheyochal nevelot. אני קורא עליו ככל היוצא מפיו יעשה, תלמוד לומר לאסור איסר. Il peut s'interdire du permis, mais il ne peut pas se permettre de l'interdire avec cette parole. Qu'est-ce qu'on dit ici? Comment est-ce qu'on est engagé par sa parole quand on. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Ce n'est pas ce que les gens appellent en général un vœu. C'est quelque chose qui obéit à des règles bien précises. C'est quelqu'un qui dit Hare alai. Voilà, c'est sur moi, je mets sur moi. Et puis il dit un mot kunam. Hare alai kunam. Ce mot de kunam, il veut rien dire du tout. C'est un nom de code en quelque sorte. Shelo Ochal, après avoir dit Kunam, dit que je ne mangerai pas par exemple cette chose-là ou je ne ferai pas cette chose-là. Donc, dans son Neder, il s'interdit quelque chose. Alors, on ne peut s'interdire que quelque chose qui jusque-là était permis. Alors, le problème, c'est est-ce que quelqu'un va faire un Neder? Et par ce neder, il va s'interdire quelque chose que la Torah a déjà interdit. Est-ce qu'on peut faire un vœu par lequel on s'interdit de manger une côte de porc? Alors ça, c'est une question. Est-ce que le neder peut être chal? Est-ce qu'il peut s'installer sur une situation qui est déjà interdite? Bon, ça, c'est un sujet à part. On ne va pas en parler maintenant. Donc, on a ici une définition de la notion de neder avec ce mot de kunam. Le problème, c'est d'où vient ce pouvoir de l'homme de s'interdire quelque chose? Bien, ce pouvoir-là, il le prend en quelque sorte en se référant à quelque chose que la Torah a interdit. C'est-à-dire, kunam, c'est quelque chose qui fait aussi un peu référence à la notion de korban. C'est-à-dire, je m'interdis, la personne s'interdit cette chose-là, d'accord, avec le même genre d'interdit qui existe sur un corban. À partir du moment où le corban a été désigné comme tel pour être, l'animal a été désigné pour être un corban, dès lors, on ne peut plus en profiter, il est interdit. Et donc, c'est comme si on allait emprunter cette capacité d'interdire qui existe avec le mot corban. Que corban, le mot corban, il interdit pratiquement tous les corbanotes, on peut dire presque tous, sauf Bechor, tous les corbanotes sont la résultante d'un interdit formulé par les hommes. C'est-à-dire, le corban, il est interdit parce qu'un homme a dit, je désigne cette bête-là comme étant mon corban. Et c'est toujours kedushat peh. C'est une kedusha qui est mise par la bouche. Seulement là-bas, c'est parce que c'est un corban et parce qu'Hachem a donné des règles. Et ici, justement, c'est comme si on empruntait la possibilité d'interdire qui existe avec corban, qui est une possibilité d'interdire que nous avons, nous, puisque c'est nous qui décidons si un animal est un corban ou pas. C'est pas Min haShamayim, à part le Bechor, à part celui qui est né, premier-né, celui-là, effectivement, on n'y est pour rien. Ça, c'est Hachem qui a décidé. Mais tous les corbanotes, à part celui-là, c'est des corbanotes qui sont la résultante d'une formulation des hommes. Et donc, avec ce Kounam, c'est une façon de dire je me rattache à la possibilité qu'il y a d'interdire qui existe dans le Corban. Et donc il faut cette formule-là. Si on n'a pas cette formule-là, on n'a pas affaire à un éder. Donc la plupart du temps, par exemple, nous qui avons pris l'habitude, dans certains cas, de dire blin éder, c'est-à-dire que je m'engage. Mais je ne veux pas que mon engagement ait valeur de néder. En réalité, ça n'est pas un néder puisque on n'a jamais utilisé, on n'utilise pas couramment cette formule. Mais bon, comme on a interdit de s'engager et qu'on a validé les engagements, même s'il n'y avait pas de kounam, on a pris des mesures de précaution, en fait. Et donc, puisque ce qu'on a interdit, on a interdit avec quelque chose qui est une certaine référence à la notion de corban. Alors, on peut peut-être comprendre pourquoi on peut parler de lo yachel de varo. On ne peut pas profaner sa parole. C'est une parole qui a cette kedusha qui lui vient de cette référence du Corban, référence au Corban qu'on a utilisé quand on s'est interdit la chose. Et Rashi dit, lo yachel dvaro, comment lo yichalel dvaro. Pour que ça soit bien clair, il s'agit d'une profanation. Lo yaaseh dvaram chulin. En d'autres termes, on est en train de dire que s'il ne respecte pas son engagement, alors il fait de sa parole quelque chose d'entièrement profane. Sous-entendu, quand on respecte sa parole, alors la parole a un degré de kedusha. C'est moral, disons. C'est pas... bon. Puisque si on ne la respecte pas, on profane. Alors si on respecte, on maintient la kedusha. Ça veut dire qu'a priori, l'homme a reçu une bouche pour produire de la kedusha, pour produire de la sainteté. Il produit de la sainteté quand on produit de la Torah, par exemple. Produit de la Torah, donc produit de la sainteté. Ça, c'est Rashi. On va voir un enseignement de Rav Volbé là-dessus. Il commence par ramener son maître, Rabbi Roucham, et il dit que Rabbi Roucham aurait dit qu'on peut comprendre ou apprécier la grandeur de l'être humain à partir de cette paracha. Bon, vous avez déjà entendu, vous avez déjà compris où ça va, d'après ce qu'on a vu dans Rashi. Une personne a la capacité d'inventer, de créer un interdit avec ses paroles, avec ses lèvres. Ces mots, les mots de l'homme, en fait, langage de façon qui n'est pas différente de l'engagement que nous imposent les mitzvot de la Torah. Puisqu'il y a cette idée de profaner. Et ici, c'est presque si, en passant, on apprend ou on révise que dans une mitzvah, quand on ne fait pas une mitzvah, ou quand on transgresse, alors il y a une dimension de profanation. On n'est pas toujours conscient de cette idée, cette notion de profanation. Mais c'est bien ce que Rabbi Yochanan disait. Alors cette idée, elle est très clairement présentée par le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Me'ilah, il dit que du bois, des pierres, la poussière, des cendres, une fois que le nom du maître du monde a été proclamé sur ces pierres, sur ce bois, avec des mots simplement, alors ces bois, ces pierres, etc., tout ça est devenu kadosh, tout ça est devenu saint. Et toute personne qui utiliserait ces choses-là de façon courante, c'est-à-dire sans que ce soit pour la kedusha, eh bien, il les profane. C'est ça le din de Meïla. Et donc, il disait, c'est incroyable de penser que n'importe quel objet de base peut devenir un objet de Kedusha si on l'a consacré au Beth Amikdash, par exemple. Et la question qui se pose, c'est comment comprendre que l'homme est une telle puissance? Comment les mots de l'homme peuvent-ils être tellement puissants? Bien sûr, chaque juif a une neshama qui vient du Très-Haut. Et cette neshama, elle est connectée à la source de toutes les kedushot. Et en fait, elle est bien plus grande, bien plus puissante que tout ce qu'on peut nous imaginer et bien sûr comprendre. C'est grâce à cette neshama pleine de kedusha que effectivement nous pouvons donner de la kedusha avec une déclaration par ma bouche. On va changer des morceaux de bois et des pierres en objets de kedusha. Ça veut dire la puissance de nos mots. Pas simplement on peut créer des interdits de la Torah, mais ça peut changer le fonctionnement même du monde. Par la tfila, par la prière, par l'étude de la Torah, on a ce pouvoir incroyable. Alors, bien entendu, ce serait criminel de ne pas l'utiliser. Alors, je voudrais voir avec vous un enseignement de ce de Rav Gabriel Lita, dont on a déjà parlé la semaine dernière, justement sur ce problème du Neder. Il commence par poser la question, comment se fait-il que la Torah ait attendu si longtemps pour traiter ce problème-là? C'est quelque chose qui aurait dû être présenté bien avant. C'est étonnant qu'on ait attendu aussi longtemps. On est pratiquement au Mishneh Torah. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que ces lois-là sont dites aux Rashi HaMatot? Pourquoi ces lois-là sont dites aux chefs de tribu? Alors qu'en fait, elle concerne tous les Bnei Israël. Le Rashi qu'on a vu, il dit bien clairement que sur le modèle de Shvout Echoutz, on sait que ça concerne les Bnei Israël aussi, et pas seulement les Rashi HaMatot. Ensuite, il y a le Zeh Hadavar Asher Tziva Hashem, et là, Rashi. Vous vous souvenez, Rachid nous avait dit qu'on apprend de là que Moshe Rabbeinu est le seul dont la prophétie est du type Zeh Hadavar. Il a aussi la possibilité de prophétiser avec Ko Amar Hashem, ainsi a parlé Hashem, mais Zeh Hadavar, c'est-à-dire c'est précisément, c'est exactement les paroles d'Hashem. Et ça, aucun autre prophète ne pourra jamais utiliser, n'a jamais utilisé, ne pourra jamais utiliser. Cette formulation-là, celle-là aussi, on attend. On est quasiment au moment du testament de Moshe Rabbeinu. On se serait attendu que la Torah nous dise une chose aussi importante à l'introduction, au commencement de la parole de Moshe. Alors, pourquoi est-ce que cette caractéristique de la neuve voix de Moshe est dite ici dans le contexte de Nedarim. Qu'est-ce que ça... Pourquoi c'est là? A priori, Nedarim, c'est une mitzvah parmi les autres mitzvot. C'est pas une mitzvah chiyuvit, disons. Mais au moins, c'est une kiyumit, c'est-à-dire, il n'y a pas de mitzvah de faire des vœux. Mais il y a une mitzvah, si on a fait un vœu, alors on a des obligations de tenir sa parole. D'un autre côté, il faut savoir que bien que dans la Torah, la chose est présentée comme, voilà, c'est une chose standard, tout le monde peut faire, tout le monde peut effectivement faire des nedarim, mais Chazal disent que ou celui qui fait un vœu, c'est comme s'il avait construit un haut lieu, c'est-à-dire un endroit où on fait des sacrifices pour la Avodah Zara. Et si on accomplit le vœu, alors c'est comme si on avait construit l'autel sur lequel on va le faire, le korban, et qu'on avait fait le korban, l'Avodah Zara. Chazal dit, il faut faire attention même d'une chevoie qui est émette, mais d'une chevoie qui est vraie. On ne parle pas de celui qui fait un faux serment. On parle de quelqu'un qui dans certains cas, la Torah pour régler certains points qu'on ne peut pas régler autrement, elle demande qu'on jure. Et celui qui jure, même à bon escient, même, etc., tout ça, hein, c'est pas bien du tout en réalité. Alors lui, il veut expliquer comme ça. Le sujet Nedarim, c'est que l'homme a la possibilité, donc il a le pouvoir de s'interdire des choses ou d'interdire des objets qui sont à lui, il peut interdire que d'autres en profitent. Et si quelqu'un ne respecte pas les paroles en question, que ce soit lui-même ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, eh bien, il transgresse un interdit de la Torah. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quelqu'un peut dire, quelqu'un qui ferait un vœu dans lequel il dit, je m'interdis par vœu, alors, un éder, kounam, etc., je m'interdis les pommes vertes, et si un jour il a très forte envie de manger des pommes vertes et qui se dit, mais finalement, ces pommes vertes, c'est moi qui les ai interdites. Donc, je peux très bien me les permettre, comme je me suis les ai interdites. Et maintenant, je me les permets. Mais pas du tout. S'il mange les pommes vertes, il sera aussi chayav que s'il avait mangé les côtes de porc. Finalement, c'est jamais qu'une parole humaine. Comment se fait-il qu'une parole humaine, quoi? Si c'est les siennes, oui, les siennes. Il a acheté, si tu vas au marché, tu achètes 1 kilo de pommes vertes et tu fais un. Enfin, si quelqu'un fait ça, et, non, tu ne vas pas m'interdire des pommes vertes. D'accord. Donc, si quelqu'un effectivement dit j'interdis à qui que ce soit de manger des pommes vertes, et que la personne mange ses pommes vertes, quoi? Et sur ce qui est à moi, oui. Pas sur ce qui est à lui. Ce qui est à moi. Celui qui a, qui, soit ou soi-même d'ailleurs, s'il s'est interdit lui-même, ou s'il l'a interdit, seulement s'il a dit je m'interdis, il l'a interdit que pour lui. Maintenant, s'il dit j'interdis à qui que ce soit, à moi ou à d'autres, eh bien, si quelqu'un d'autre mange, il transgresse. Oui, voilà. C'est pas vraiment. La joie, c'est le Shem Hashem. Mais l'autre, c'est Kunam. On a inventé certaines expressions pour indiquer que ça. On veut pas dire Korban Hashem. On pourrait dire. Parce que dans l'idée, ça veut dire comme ça. Ça veut dire, je m'interdis, la personne dira qu'elle s'interdit les pommes vertes avec le même degré d'interdit qu'il peut s'interdire un corban. C'est-à-dire que le corban aussi, bon, si quelqu'un désigne, il va dans sa bergerie, il prend un agneau et il dit, cet agneau-là, ce sera pour mon corban Ola, il peut plus du tout utiliser cet agneau, il peut pas. Il ne peut pas le tondre pour en bénéficier, il ne peut pas le faire travailler, etc. Et il ne peut pas le manger, bien entendu, et personne d'autre ne peut le manger. Dans un korban, c'est korban l'Hachem. Bon, c'est ça la force, c'est l'Hachem. Et là, c'est neder, neder l'Hachem. Le vœu est un vœu l'Hachem. Ah non? Parce que tu te places comme si tu étais. Tu inventes des nouvelles lois. L'Avodah Zarah, c'est aussi inventer des nouvelles lois qui ne sont pas les lois de la Torah. Donc, oui. Pas compris. La fin, j'ai pas compris. Elles deviennent, elles ont un degré, on les traite comme s'il y avait de la kdoucha. La pomme n'est pas devenue kadosh au sens habituel, mais tu vois bien que si on mange cette pomme, bon, on est sanctionné exactement comme si on avait transgressé un interdit d'Hachem. Et l'idée, c'est effectivement, c'est un dérivé du grand chidouche qui est que nous pouvons, nous, quand quelqu'un donne un korban, c'est étonnant qu'il puisse donner un korban. Bon, c'est la nourriture d'Hachem, quelque part, si on parle comme ça, par image. Bon, je me bombarde. Bon, nous ici, l'Hachem. Hachem dit, Korbani, Lachmi, c'est mon pain. Donc, on se prétend capable de donner de la Kdoucha. On donne de la Kdoucha, on a donné de la Kdoucha au Beth Amikdash. Quand on a inauguré le Beth Amikdash, il a fallu oindre tous les kélim, etc., pour leur donner de la Kdoucha. Bon, c'est les hommes qui ont fait tout ça. Alors là, en l'occurrence, c'est Hachem qui a dit comment il fallait faire. Là aussi, Hachem a dit comment il fallait formuler la chose pour qu'on ait affaire à un néder. Si quelqu'un dit je m'interdis les pommes vertes, il n'a pas fait de néder avec ça. C'est pas un néder. Il faut pas le faire parce que on craint qu'éventuellement. Mais Miladine, c'est sûr que c'est pas un néder. Une formule. Comme dans tout, il y a la formule. Je veux dire, si tu veux un médicament, ça correspond à une certaine formule. Si tu dis, ah ben moi, je pourrais mettre encore un peu plus de vert et un peu plus de bleu, donc ton médicament, il n'existe plus. Tu es obligé de respecter certaines lois. Les korbanot, ils doivent être mangés quand ça doit être mangé. Certains korbanot doivent être mangés en 2 jours et une nuit ou en 1 jour et une nuit. Le korban pesach, on doit le manger, il y a le machloket, ou bien jusqu'à Hatzot, ou bien jusqu'au matin. Si tu le manges après, d'abord, c'est interdit. Et puis en plus, tu n'as pas du tout accompli la mitzvah de manger le korban pesach. C'est raté. Bon, mais les choses, elles ont toujours. Nous vivons dans un espace-temps, en quelque sorte. Bon, si quelqu'un décide qu'il va faire. Moi j'ai un copain. C'est mon copain d'enfance. Ça fait longtemps que c'est un peu perdu de vue, mais j'ai entendu que dans sa famille, il n'était pas libre à Pessah. Alors ils ont fait un autre jour de Pessah. Pour ta famille, ils sont rendus. Ils ont fait Pessah. Ils ont décidé. Bon, on va faire Pessah le. Je sais pas, le 24 juin. Pourquoi pas? Je veux dire, pourquoi ça devrait être Dafka le 15 Nissan? Qu'est-ce qui t'a fait le 15 Nissan? Pas le 15 Nissan. L'autre jour. Bien. Alors, lui, on va continuer de voir comment il lui présente les choses. Alors, il demande effectivement, mais efo Adam Shoev Koarzi, d'où est-ce que l'homme a cette force-là. Le Chadesh Mitzvah de Mamarpiv. Il est en train d'inventer l'équivalent d'une mitzvah par sa propre bouche, parce qu'il l'a parlé. Alors il dit, venirez, Inei Akadosh Baruch Hu Amar Naase Adam. Et ensuite, c'est marqué, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, avec les deux yud. Ensuite, c'est marqué, Vayivra Elohim et Adam. Et ce n'est pas marqué Vayas, seulement Vayivra. Qui tikuno v'tachlito chayavim lavo bidei Adam atzmo. Vezehu naase Adam. C'est-à-dire, pourquoi c'est marqué naase, c'est un pluriel. Lashon rabim. D'après certains rishonim, c'est qu'Hachem connaît l'Adam Shebara Veyatsar. Vous savez qu'il y a quatre niveaux de monde dans la création. Le niveau le plus élevé, il s'appelle Atzilut. Atzilut, c'est la Shon Etzel, auprès d'eux. Ça, c'est un niveau qui est quasiment entièrement dans la divinité elle-même. Mais c'est l'émergence de cette idée qu'il pourrait y avoir quelque chose, qu'Hachem pourrait créer quelque chose qui ne soit pas lui. Bon, c'est presque impossible. Ouais. Et ça, c'est Atzilut. Après, il vient la Bria, Bara. Ça, c'est la création. Là, on est sorti de la divinité. C'est la première émergence de quelque chose. Ensuite, on lui donne de la forme. C'est Yetzira. Et ensuite, le quatrième monde, c'est notre monde à nous, c'est le monde de la Asiya, de l'action, action des hommes. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, ou Bara, Yatsar, mais ou Loasa. Le Laasot que vous dites, qu'on dit dans Vaifulu, le dernier mot de Vaifulu, de la sorte. Il faut encore un Sia. Et c'est là-dessus, Hachem dit, Naase Adam. Naase Adam. Pluriel, Bishneinu. Bishneinu. Ani, Becholma, Shei, Shkati, Ba. Bo, Ba, pardon. Tout ce que j'ai investi en toi. C'est-à-dire, Hachem propose à l'homme de construire l'homme avec lui. Il faut comprendre que la création de l'homme par Hachem, c'est que Hachem a voulu, il a voulu avoir un associé. Mais c'est très artificiel parce que c'est un associé qu'il a fabriqué. Mais il joue le jeu. Le jeu se joue entre eux, comme ça. Nassé, faisons-le. Toi et moi, avec tout ce que j'ai mis dans toi, d'ailleurs. Je vais faire une petite parenthèse. Si vous voulez bien vous rappeler où j'en suis, parce qu'après je ne me rappellerai plus. Mais il y a une petite parenthèse pour dire que dans ce que nous comprenons, en nous disant que Hachem a créé le monde, pourquoi il a créé le monde? Alors évidemment qu'il n'y a pas de réponse à cette question du pourquoi. On n'en sait rien. Mais les choses nous apparaissent. Hachem a fait en sorte que les choses nous apparaissent comme si Hachem a créé le monde pour être reconnu comme Melech. ça, toute la liturgie de Rosh Hashanah, avec le mot Melech tout le temps, ça m'a le compte. Mais vous vous souvenez, il y a deux sortes de royauté. Il y a la royauté du Melech et la royauté de la Malchut. Plus exactement, il y a une royauté qui est du type le roi dans la Torah, c'est un roi qui est accepté par ses sujets. Et il y a une autre royauté qui est la royauté tyrannique. Ça s'appelle Moshel. Ça donne le mot Memshala. Le Moshel, c'est un tyran. C'est un roi qui ne se soucie pas d'obtenir la reconnaissance de ses sujets. Il s'impose. Hachem, lui, veut être Melech. Toutes les brachot, c'est toujours Melech Haolam. Bien entendu que Hachem peut être aussi automatiquement le Moshel si on ne le reconnaît pas. Nous disons qu'il Hachem Hamelucha ou Moshel Bagoyim. Nous, on reconnaît la royauté d'Hachem. Pour nous, il est Melech. Et les Goyim qui ne le reconnaissent pas, pour eux, il est Moshe. Il s'impose, évidemment. Mais si Hachem veut être reconnu comme Melech, ça n'a de sens, cette reconnaissance, que si ceux qui le reconnaissent pourraient ne pas le reconnaître. Parce que si c'est des robots qui ne peuvent que dire oui, ce n'est pas une reconnaissance, ce ne sera pas un Melech. Et donc, quand Hachem accepte d'être reconnu, il veut être reconnu, c'est comme s'il fragilisait la chose. Quelque part, il nous donne le pouvoir de ne pas le reconnaître comme Melech. C'est obligatoire s'il ne peut pas. Et donc, Hachem a fait quelque chose d'énorme. Il a donné à l'homme la possibilité de ne pas le reconnaître. Les malachim, ils ne peuvent pas faire autrement que de reconnaître Hachem. Nous, on peut. Pas de chaleur. Donc, je ferme la parenthèse. C'est ça la grandeur qui a été donnée à l'homme. Pour Hachem, comme le Passouk dit, David de Meller dit, je croyais que vous étiez pareil à des Elohim, à des Elohim. Achen ki Adam, mais je vois vraiment que vous êtes des mortels, comme vous êtes des hommes mortels. On aurait dû être immortels. Adam était immortel. Les Bnei Israël au Sinaï, ils étaient immortels. Mais la faute d'Adam ou la faute du Vaudor fait qu'on est redevenu mortel. Mais ces gens-là qui sont nous, quoi, ils sont mortels. Mais nous avons un pouvoir fabuleux. Parce que, bien entendu, ce pouvoir peut nous être retiré à tout instant. Mais il nous a donné ce pouvoir parce que c'est comme ça qu'il veut que le monde fonctionne. Alors, il faut jouer le jeu. Et donc, il nous a donné la possibilité. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites quand vous apportez un corban? D'apporter un corban pour Hachem. Que vous lui apportez, c'est ce qu'il vous a donné. On est toujours dans la situation de la maman qui va avec son petit enfant acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa mère. De la mère. Alors elle l'achète, on dit à l'enfant, et voilà. Et lui, il donne comme si, l'enfant, il donne comme si c'était lui qui a eu l'initiative, qui a acheté, etc. Mais nous, on est un peu comme ça. Ce qu'on donne à Hachem, c'est ce qu'il nous a donné. Donc nous, en vérité, nous ne pouvons rien lui donner. Par définition, il n'a besoin de rien et on ne peut rien lui donner. Alors, à quoi on joue? Hachem a voulu que nous soyons en position. Il a fait une alliance avec nous comme si on était des partenaires possibles pour une alliance. C'est quoi l'alliance entre les hommes et Hachem? Ça n'a pas de sens. Pourtant, Hachem a fait une alliance avec les hommes. Ça, c'est fondamental parce que ça change complètement la vision. Et cette histoire-là de Nedarim, à cet endroit-là, c'est absolument fondamental parce que ça donne une dimension à la parole humaine. Or, nous sommes caractérisés par la parole. Le Ruach Memalela, c'est ça qu'Onkelus traduit, le fait que la création de l'homme, un être parlant. Ce qu'on voit, effectivement, c'est que quand l'homme accomplit les mitzvot qu'Hachem lui a données, il fait une chose qui est le chatan. Donc, quand il fait ça, l'homme, d'une certaine manière, il devient presque une part de la Torah. C'est lui qui pratique la Torah. Le Ramban, sur le passouk, qui dit que Vayehav Yitzhak était Esav, que Yitzhak a aimé Esav Kitsaïd Befim, littéralement parce qu'il lui donnait du gibier dans sa bouche. Et on dit qu'Esav Saïd Befiaviv, Yichane Aish Memase Tedivuto. C'est-à-dire, il est devenu Esav, il est devenu celui qui chasse la bouche de son père. Comme quand on dit Vanit Tefila, David HaMelech dit, je suis prière. Ça veut dire je suis prière. Ça veut dire que il a tellement intégré la prière, il est tellement investi dans la prière, il est la prière. Finalement, une prière, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait un homme, un être humain qui la dise, cette prière. Bon, on n'est pas extérieur, c'est pas je dis une prière en dehors de moi. Je m'investis dans la prière, je deviens la prière elle-même. La force de l'homme, qui est de pouvoir interdire certaines choses, comme si la Torah les avait interdites. Et il y a un chidouche qu'on peut poser halakhiquement. Pourquoi est-ce qu'on ne transgresse pas l'interdit de Baal Tosif en faisant un éder? On n'a pas le droit d'ajouter une mitzvah de la Torah. Mais est-ce qu'on j'ajoute quand je. Les pommes vertes, là, une nouvelle mitzvah? C'est sanctionné comme une mitzvah. Pourquoi on ne transgresse pas le Baal Tosif à cause de ça? C'est parce que, en fait, quand on a fait le Neder, on a reconnu, dans la formulation, on a reconnu qu'on prenait un modèle sur la désignation d'un corban que la Torah nous a prescrit. Donc, dans la formulation, on a reconnu que on n'était pas les artisans uniques de ce néder. On a fait ce néder qu'en empruntant un mode opératoire que Hachem m'a découvert et m'a appris. Je pensais que c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit cette mitzvah au Rashi Amatot. c'est-à-dire à des princes qui étaient un peu au-dessus des autres, gens qui faisaient particulièrement attention aux mitzvot de la Torah. Il n'y a que eux. Il n'y a que quelqu'un qui est très, très, très scrupuleux par rapport aux mitzvot de la Torah, qui peut se permettre de faire un éder ou une choua. Celui qui n'est pas à cette hauteur-là, qui n'est pas imprégné de Torah, il ne peut pas vraiment faire un éder. C'est pour ça que cette mitzvah-là, elle vient après toutes les mitzvot qu'on a eues dans tout le reste de la Torah, pour nous dire que cette mitzvah, d'une certaine manière, elle ne s'entend que pour quelqu'un qui a fait toutes les autres mitzvot. Cette mitzvah-là, on peut la prendre de la bouche de Moshe. Parce que ce que dit Moshe Rabbeinu, c'est Zé. C'est exactement ça qu'Hachem a dit. Les autres prophètes, ils disent, ils n'ont pas d'obligation de dire, d'abord, c'est pas tout, ils n'ont pas toujours reçu un message, des fois c'est une image, etc. Mais ils n'ont pas d'obligation de le transmettre tel quel. C'est à eux de juger de l'opportunité de dire cette chose-là en public, de la dire en privé au roi. De faire un scandale, de l'annoncer publiquement, de faire une fête, etc. À eux de juger. C'est en ça que les Neviim, la Kedusha des Sfarim qu'on appelle Neviim, elle est moindre que la Kedusha de la Torah. Parce que ce n'est pas la parole d'Hachem telle qu'elle. C'est bien sûr inspiré par Hachem. C'est ordonné par Hachem. Et ce n'est pas sa parole. Et les Ktouvim, ça sera encore un étage au-dessous. Même pas une parole entendue qu'on n'est pas obligé de restaurer, de restituer telle quelle, mais c'est une inspiration. Les prophètes, ils disent Ko Amar Hachem. Ainsi. Ainsi, ça ne veut pas dire exactement ça. Ko. On dit, Ko, ça veut dire. Quand mon cher Abeno a eu peur que mes horloges en Mitzrayim ne soient pas des horloges suisses et qu'elles ne donnent pas exactement Hatsot, et que comme Hachem a dit que c'est la Hatsot qu'il allait intervenir, mais si ça ne colle pas avec les horloges, alors. Hachem ne peut pas être en retard de juste quelques secondes de retard, ça n'a pas de sens. Donc, Moshe Rabbeinu, pour éviter ça, il a dit qu'à Hatsot, à peu près à Hatsot. Il n'a pas voulu leur dire Hatsot. Parce que les horloges, elles ne sont pas sûres. C'est ça qu'on dit quand on dit que là, chez Moshe Rabbeinu, Ashrina medaberet tor grono. D'accord? C'est-à-dire, ce que Moshe dit, c'est Moshe qui le parle, mais il parle la parole d'Hachem. Il ne restitue pas une parole qu'il a entendue et qu'il ne va restituer. Quand les Chachamim ont vu que les gens se permettent de faire des vœux à tort et à travers, alors ils ont dit que c'est très très mauvais. Pour montrer combien c'est mauvais, ils ont dit c'est la même chose que de construire un misbéach pour l'Avodah Zarah, et si tu l'accomplis effectivement le vœu, c'est comme si tu avais amené un corban non plus dessus. Donc voilà ce que je voulais rapporter sur ces premiers mots de Matot. On va voir un autre sujet. Il y a un grand problème qui est le problème de la vengeance. Comme tout le monde sait, que on n'a pas le droit de se venger. Dans la Torah, à partir de cette semaine, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, ne comme Nikmat Bnei Israël, mais est à Midianim. Achar, Tasef el Amecha. Hachem ordonne à Moshe, venge-toi, venge la vengeance des Bnei Israël contre les Midianites. Et après que tu auras fait cela, tu pourras mourir. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אימדיאטמו משה אדוני לורד ופאפ, אני פה סמוביליזה עוד אותו טרם, ילדי ופאפ, ונוזלו פרונד, נוזלו וונג'ה, la vengeance d'Hachem contre Midian. Hachem a dit à Moshe, venge la vengeance des Bnei Israël. Les Bnei Israël se vengent. Moshe dit aux Bnei Israël, nous on va faire en sorte que Hachem soit vengé. Vengeance des Bnei Israël versus vengeance d'Hachem. Rashi explique que celui qui agit contre les Bnei Israël, en effet, il agit contre Hachem. Donc, Moshe Rabbeinu a dit aux Bnei Israël que la vengeance contre Midian, elle est faite pour venger l'honneur d'Hachem, en quelque sorte. Comme si Midian avait fait quelque chose contre Hachem. Les Bnei Israël sont d'une certaine manière les espèces d'ambassadeurs d'Hachem dans le monde, puisqu'ils amènent la connaissance d'Hachem dans le monde. De la même manière qu'une attaque contre une ambassade d'un pays est considérée comme une attaque contre le pays, alors que c'est jamais que une maison qui est même pas sur le territoire sur le territoire de l'autre. De la même manière, si on considère les Bnei Israël comme les ambassadeurs d'Hachem, alors attaquer les Bnei Israël parce qu'ils sont les Bnei Israël, c'est attaquer Hachem. La revanche contre Midian, la vengeance contre Midian n'est pas du type de vengeance telle qu'elle est décrite dans Mesilat Yesharim. Le Mesilat Yesharim, il dit que la vengeance, c'est plus doux que le miel. Quand on arrive à se venger, quel plaisir! La vengeance de la Torah, c'est un acte de purification, d'éradication du mal du monde ou d'une nation, peut-être même d'une seule personne. Et maintenant, toutes les sanctions dans la Torah. Chaque fois que la Torah dit que si tu fais ça, tu encours ceci, etc. Toutes ces sanctions. ou des sanctions qui ont été annoncées, qui ont frappé les Bnei Israël, etc., qui sont écrites dans la Torah. C'est toujours un essai, un chemin pour nettoyer le monde du mal, éradiquer, faire disparaître ceux qui transgressent, ceux qui font le mal. Étant donné que la Torah, elle a donné cette fameuse règle de œil pour œil, dent pour dent. Je ne sais pas pourquoi Hachem a mis cette formule dans la Torah. Parce que au cours des siècles, ça nous a fait tellement de mal, tellement d'accusations complètement débiles. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ce que font toutes les assurances. Ils ont des tables. Tu causes un dommage à un œil à quelqu'un, ben ça vaut tant et tant, tu vas payer tant et tant. La Torah, elle dit, quand elle dit œil pour œil, c'est mammon, c'est de l'argent. Bien entendu, ça n'arrangerait pas du tout si A a crevé l'œil de B, on va crever l'œil de A, ça va quoi? Ça va rendre l'œil à B? On ne va pas faire, c'est complètement débile. Chazal disent, il faut payer pour le dommage, mais ça se paye avec de l'argent. Si on condamne quelqu'un à mort, ou bien si on condamne quelqu'un à la prison à vie, alors, si ça se trouve, c'est encore pire que de le condamner à mort. Dans la Torah, il n'y a pas de prison. Quand on met quelqu'un aux arrêts, c'est pour que Moshe Rabbeinu interroge Hachem, comment est-ce qu'on va faire dans le Mekoshesh Etzim, quelle peine il encourt, etc. Mais il n'y a pas de prison. Quand quelqu'un est condamné à mort par le Médina, je reprécise toutes les peines de mort qui sont dites dans la Torah. Elles sont toutes complètement académiques. D'accord? Je répète, pour pouvoir condamner quelqu'un à mort, il faut deux témoins, deux juifs cachers, qui ne sont pas en parenté entre eux, qui ne sont pas en parenté avec la victime ou l'assassin, disons. Il faut que ces témoins ont vu en même temps, et pas qu'il y en a un qui a vu depuis cette fenêtre et l'autre depuis cette autre fenêtre. On ne peut pas condamner avec ça. Donc, ils ont vu en même temps. Et ils ont averti le meurtrier et lui ont dit, sache que ce que tu veux faire là, c'est un meurtre. Il sera passible de mort. Et d'après Rabbi Yehuda, il faudra même lui dire laquelle des quatre formes, les quatre formes de mort dans la Torah, laquelle il encourt. Pas fini. Il faut que le meurtrier réponde, Almenat ken ani oseh. Je le fais pour ça. Et il faut qu'il agisse dans les secondes qui suivent l'avertissement. En français, ça s'appelle académique. D'accord. Vous ne trouverez pas beaucoup d'assassins qui vont vous faire la conversation et qui vont réunir toutes ces conditions-là. Sans cela, on ne peut pas donner de peine de corps, de peine de coup, ni de peine de mort. Et donc, la Torah, néanmoins, elle nous enseigne quatre sortes de peines de mort pour nous indiquer quel genre de transgression on a fait. Des fois, ce n'est pas toujours clair. Quand on fait une avéra, on ne sait pas toujours exactement c'est quoi le problème. Je comprends bien que c'est interdit, mais c'est quoi le problème? Les gens qui sont tués par le Bedin, ils ont toujours Chelek le Olam Haba. D'accord? La peine de mort n'entraîne pas la perte du Chelek le Olam Haba. Ce n'est pas du tout que on va lui montrer quoi? Quoi? Quoi contraire? Tout le monde est garanti de la Maba. Ils n'ont pas perdu leur la Maba avec ça. Ils peuvent l'avoir perdu pour autre chose, mais ils ne l'ont pas perdu avec ça. La peine de mort, ce serait une façon de nettoyer, en fait. C'est aussi une façon de les nettoyer pour qu'ils puissent entrer dans l'Olam HaBa. Tant qu'ils n'ont pas payé leurs dettes, en quelque sorte, alors ils ne peuvent pas entrer dans l'Olam HaBa. Un parent ne doit pas punir un enfant sous forme de vengeance. Ben, l'enfant, il m'a fait quelque chose, je vais me venger maintenant en le punissant. Parfois, un parent dit à un enfant de faire quelque chose et l'enfant... Voilà. Ostensiblement, il ne le fait pas. Ou même des fois, il dit non, je ne le fais pas. D'autres fois, un enfant peut très bien faire une avéra ou faire quelque chose devant d'autres personnes. Et les parents de cet enfant, ils sont honteux que leur enfant soit conduit de cette manière-là. Le parent, il va chercher une punition. En fait, dans cette punition, il est en train de se venger de la honte qu'il a reçue parce que son enfant, il s'est mal conduit. N'y a pas de différence entre se venger de son prochain et de se venger sur son enfant. Les enfants ne sont pas des enfants, ne sont pas des êtres dont on a le droit de se venger. S'il a transgressé quelque chose, bon, alors il faudra réfléchir à comment on va le sanctionner, le cas échéant. Mais surtout pas avec l'intention de se venger, éventuellement de se demander comment je pourrais corriger ce qui s'est exprimé là, dont je pense que c'est mauvais ou c'est peut-être que c'est révélateur de quelque chose que je n'avais peut-être pas compris. Il racontait que, c'est Ravolbé qui avait raconté au Chio que quelqu'un avait une fois dit des choses très, très offensantes à Rav Abba Goswar, un refus suivant. Et il s'est jamais excusé, il a jamais. Quelque temps après, cette personne-là, elle avait besoin d'une lettre de recommandation de Rav Rosbart. Alors Rav Rosbart, il a essayé d'utiliser toutes les excuses en disant, est-ce que tu en as vraiment besoin? Moi, je n'écris pas de lettre de recommandation, etc. C'était bien clair que Rav Rosbart, il n'avait pas du tout été offensé. Mais il voulait quand même que l'autre comprenne qu'il s'est quand même passé quelque chose. Et ça a marché. Il a fini par comprendre et il est venu s'excuser à ce moment-là. Rabbonda lui a donné cette. Donc, c'était sa méthode de punition. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser passer. On n'est pas obligé de laisser passer, mais il faut regarder que ça ne soit pas une vengeance. Pardon? Non, ce n'est pas déguisé du tout. C'est un ange. Pardon? Ben, c'est pas une vengeance. L'amener à. Pas du tout. Ben, tu pourrais plus. Il n'y a plus d'éducation d'après toi. Si quand tu veux éduquer quelqu'un, tu te dis c'est une vengeance déguisée, non, il voulait pas se venger du tout. J'ai raconté, on raconte sur Abel Lapian, non pas les, hein, Abel Lapian, que vous savez l'habitude, c'est que, y compris dans les yeshivot, avant Yom Kippour, on va passer chez chacun. On dit Mechila, on demande Mechila, etc. Mais c'est presque une salutation, quoi. Il y a un élève qui est allé chez Rav Lapian et il lui a dit Mechila. Alors Rav Lapian a dit, pourquoi tu veux que je te pardonne? Alors l'élève, il avait quelque chose, mais il n'osait pas lui dire. On lui a dit, non, mais je peux pas vous dire. Mais comment tu veux que je te pardonne si tu me dis pas de quoi il s'agit? Alors bon, finalement, l'élève, il a dit, voilà, j'ai dit de la chonara sur vous. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Ouais, je ne peux pas vous dire. Finalement, il a accouché. Il a dit. Et il s'est dit, bon voilà, maintenant j'ai payé, il va me dire le fila et on n'en parle plus. Alors Avelia lui a dit, écoute, bon, il faut que je réfléchisse, c'est un grand problème, pardonnez, ça doit être sérieux. Donc, reviens la semaine prochaine. Donc le gosse, enfin l'élève là, il s'est promené toute une semaine en se demandant est-ce que Rav Lapian va lui pardonner ou pas. Alors, quand il est revenu, alors il l'a fait rentrer, etc. Il a dit, oui, c'est difficile, mais finalement, je suis arrivé, je te pardonne. On savait, Rabbi Lapian, c'est quelqu'un qui n'a jamais tenu rigueur, enfin, à qui que ce soit, de quoi que ce soit. Jamais de toute sa vie. Mais il a pensé que ce gosse qui, ben ce bahour, qui vient lui dire Mechila, qui s'imagine que voilà, quand je l'aurais dit Mechila, je lui dis Mechila, voilà, il a fait aucun travail de compréhension de ce qu'il avait fait et le travail de regretter ce qu'il avait fait. Il voulait s'en débarrasser en obtenant le Mechila de Ravelia. Donc c'est un problème d'éducation. Il faut. Là, c'était certain qu'il lui en avait pas voulu, mais qu'il voulait lui faire comprendre que, voilà, si effectivement il y a quelque chose, ben, il faut le traiter, il faut que tu fasses tchouva vraiment. Mais là, ça tombe pas comme ça. C'est vrai qu'il y a une chita dans la Gemara, la chita de Rabbi, qui dit que Yom Kippour est mechaper même ceux qui ne font pas tshuva. Et même ceux qui sont mechaper Yom Kippour. Il dit que c'est le jour est un jour qui pardonne, quoi, quelque part. Comme c'est automatique, c'est un pardon. Comme ça correspond au pardon de la faute du veau d'or, pour Yom Kippour, c'est le moment où Hachem a pardonné le veau d'or. Et où Moshe Rabbeinu est venu avec les deuxièmes loukhot. Et donc, Rabbi dit, c'est automatique. Mais là, je vous rassure tout de suite, la halakha n'est pas comme ça. Il faut faire tchouba. On peut pas se tenir quitte autrement. Voilà, on va s'arrêter là.